Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Là, repense à tout ce qu'ils ont dit une fois qu'il est seul. Calmement, trop faible pour en être irrité, en y pensant calmement, il accepte certaines choses, certaines idées du docteur qui veut lui faire comprendre que Nadine n'a eu qu'un accident et que ça n'a pas à être coupable, surtout par lui. Et après 3 mois, le médecin veut lui redonner goût à la vie en lui disant qu'on ne vit qu'une fois et que les peines des personnes perdues doivent rester dans le corps et que c'est la seule façon de les faire vivre, encore, et que s'ils meurent, elle mourra encore une seconde fois. Qu'il ait accepté cela, le médecin veut lui faire comprendre qu'il doit vivre pour lui, qu'il a des choses à faire, à dire, son œuvre, etc. Après 6 mois de maison, Nicolas se sent d'attaque pour revenir à la vie. Ses parents, sa sœur viennent le chercher en voiture. Il leur a dit qu'il voudrait revenir à Lyon. On le ramène à Lyon. le retour à la vie est difficile, lorsqu'on a vécu des mois en temps du bruit de la foule. Le bruit, la vie, la foule vous donne le vertige. Vos jambes tremblent, votre tête tourne et vous êtes obligé de rester allongé chez vous après une course de nuit. La radio, la télévision vous fait mal à la tête. Vous semblez étouffé. Il a encore des médicaments. La décidée, c'est de vivre chez lui seul. Ses parents, sa soeur l'aident à faire ses courses et l'accompagner en voiture. Petit à petit, il reprend des forces et veut guérir tout à fait. Pour cela, il se dit qu'il doit faire un film et le plus vite possible. Mais quel film ? Il décide, pour se prouver qu'il est guéri, de faire une comédie. Les déambulations de deux jeunes garçons dont l'un cherche son père. Le titre s'appellera La ville haute. Tous les extérieurs se passeront sur les pentes de la Croix-Rousse, mais la ville n'aura pas de nom. Frédéric aura le premier rôle. Un autre comédien jouera avec lui, un dénommé Jacques. Pour jouer le rôle de la copine du père de Frédéric, ce sera une copine de Frédéric. Il y aura aussi Pierre Max, le célèbre comédien qui jouera son propre rôle. Le tournage se passe vite et bien, car il se fait entre copains. Après le tournage, la copine de Frédéric, Graziella, les invite dans une villa à Monte Carlo. Une grande villa, toute blanche. Nicolas a accepté d'y aller. Mais ils se sentent très vite seuls au milieu de ce couple. Ils sont toujours ensemble, se font des mamours, se parlent bas. Lui ne sait comment se comporter. Il les laisse souvent à la villa pour aller sur la plage. Chaque fois qu'il revient, il retrouve cette gêne. Et puis eux ne s'occupent pas beaucoup de lui. Cela la triste. Car il lui reste encore de son amour pour Frédéric. Alors un matin, il leur dit qu'il va les quitter. Il le laisse partir. Il est rentré chez lui. Là, dans son appartement seul, il déprime. Parce qu'il n'a plus rien à faire. Pas de film. Personne à voir. Alors seul dans cet appartement, il se met pas à penser à la mort. Comment vais-je mourir? Vais-je souffrir? N'est-ce plus rien qu'un bout de chair en putréfaction. Même les gens qui ont toujours été propres deviennent de la chair pourrie. Vais-je mourir d'un coup? Je ne crois pas au paradis. Pour la mort, c'est la fin de tout. La fin de tout. La réincarnation, c'est la chose la plus stupide qui soit. Quand c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui va rester sur mon passage sur Terre ? Sûrement pas des enfants. Quelques films, des écrits peut-être. Cet appartement. Si je n'ai pas d'héritier, tout va être dilapidé. Je devrais en trouver un. Mais qui soit en mesure, une fois mort, de s'occuper de ce que je laisse. Tout en se posant ces questions, je fais de longues marches dans les rues, au hasard. Souvent, il va voir les putes, mais ça ne le satisfait pas. Des trucs vulgaires, moches. Ils font leur travail avec un certain sans gêne, une certaine foutaise. Les têtes sont minables, le décor infect. Dès que l'on entre dans une chambre, on a quand une envie, c'est s'en aller.
Ils font un mal, ces souliers.
Mais puisqu'on y est, autant le faire.
Les sont trop élégants.
Pendant la lac, on tout ridicule tout ça. Ces gestes.
Viens ici, à côté de moi. Alors,
la poitrine de la fille.
N'aie pas peur, va,
c'est d'une bêtise. Quelquefois, il a envie de rire en le faisant. Car il se dit que c'est bête, bête, qu'on a l'air con.
Laisse-toi faire, mon bijou. J'embrasse jamais les clients. Je garde ça pour mon fiancé.
Après-midi, le téléphone a sonné. Allô, j'écoute ? Je suis Graziella. Bonjour Graziella, comment allez-vous ? Pas tellement bien. C'est justement pour cela que je vous téléphone. Frédéric n'est pas bien du tout. Il faut que vous veniez le voir. Que se passe-t-il ? Nicolas Frédéric est très malade. Qu'a-t-il ? C'est très grave, venez. Bien, j'arrive. Je pars tout de suite. Merci, j'ai besoin de votre aide. Nicolas est intrigué, il a peur, il sent que quelque chose de terrible est arrivé. Il fait sa valise. Et part en voiture. Il arrive à Monte-Carlo en fin de journée. C'est le portail. C'est Graziella qui l'a ouvert. Bonjour Nicolas, merci d'être venu. Que se passe-t-il ? Venez. Elle le mène à la villa. Assis sur la terrasse, sur une chaise longue, avec un chapeau de paille sur la tête, des lunettes de soleil et une couverture sur les genoux. Frédéric les voit venir.
Bonjour Nicolas, déjà de retour, c'est gentil d'être venu. Comment vas-tu?
Et toi? Graziella fait nom de la tête à Nicolas. Frédéric lui dit,
ça va, à part des maux de tête terribles, j'ai eu une insolation, c'est idiot, non?
Oui, repose-toi bien, Graziella dit à Nicolas.
Venez, je vais vous montrer votre chambre.
Et si vous vous verrez, vous saurez bien.
Merci,
Frédéric lui dit.
À tout à l'heure, je ne peux pas te accompagner. Je suis encore faible et je perds l'équilibre.
J'ai des vertiges, tu te rends compte? Nicolas lui dit.
Sûrement que ça va passer très vite, tout ça.
Et il suit Graziella qui le mène à sa chambre.
Qui est au premier étage.
Pendant qu'il monte l'étage, je vais en profiter pour vous décrire le physique de Graziella. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. C'est une jeune femme, grande, mince, ses cheveux mi-longs, la peau mi-longue noire, la peau très blanche, le visage rond avec un regard coquin de chatte. Elle est harmonieuse, a une belle poitrine, des mains et des pieds menus, habillée d'un pull qui a des petits trous qui laissent voir sa peau nue dessous. Le pull est blanc, une jupe marron courte. À l'étage, elle va ouvrir une chambre.
Voilà votre chambre. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a, Frédéric?
Oui, allons nous asseoir.
Elle s'assoit sur le rebord du lit. Lui s'assoit à côté d'elle.
Voilà.
Lorsque vous êtes parti, tout allait bien. Nous étions heureux.
Je vais avoir un enfant de lui.
Nous ne vous avions pas parlé parce que j'en ai peut-être pas tout à fait sûr.
Lui lisait des scénarios. On lui proposait des tas de films.
Ça a commencé un après-midi. Il était sur la terrasse, assis à table, à lire et à écrire des projets de films. Car chose étrange, il avait épuisé tous ses projets. J'étais près de lui, à me reposer. Il faisait une chaleur accablante, un ciel bleu et le soleil qui tapait. La maison était suffocante, c'est pour cela que nous étions sur la terrasse. Tout à coup, je le vois faire la grimace. Je lui demande ce qu'il a. Il m'a dit qu'il a entendu à l'intérieur du crâne quelque chose qui se brisait. Il a très mal à la tête. Il se met à saigner du nez. Je lui apporte du coton. Ça continue. Je l'allonge dans sa chambre. Il continue encore à avoir mal à la tête et à saigner. J'ai prévenu un médecin qui examine et m'a dit que c'était une insolation, mais que le noir et le calme, ça pourrait passer avec le noir et le calme. Les jours passent, il y a toujours mal. Je vais venir à un autre médecin pour les maux de tête qui ne trouve rien. Il faut venir un troisième qui lui a l'idée de lui faire un fond de l'œil, qui croit avoir trouvé quelque chose. Il lui donne un rendez-vous pour un spécialiste de l'œil qui lui fera une radiographie poussée du cerveau. On l'emmène à l'hôpital. Là, on trouve qu'il a une tumeur maligne au cerveau. C'est pour cela qu'il saignait et avait mal à la tête. On va l'opérer prochainement à Lyon. Malgré l'opération, il est perdu. Surtout ne le dites pas, il ne le sait pas. Nicolas est effondré. Mon Dieu, souffre-t-il? À part ces maux de tête, non.
mais il est très faible, a des difficultés à lire et écrire. Nicolas lui dit, « Mon Dieu, ma pauvre Graziella, vous pouvez compter sur moi. Vous attendez un enfant ?»«
Oui. » »«
Combien de temps ?»«
2 mois. »
Il lui dit, « Qu'allons-nous faire ?» Elle lui dit,
« Rendons-nous la vie, lui la vie la plus agréable possible. »
Il y en a pour combien de temps?
1 mois, 1 an.
Souvent la tumeur. Venez, il faut aller le voir. Il ne doit pas savoir.
Ils vont le retrouver sur la terrasse.
Nicolas reste avec eux. Il est effondré. Frédéric est très faible. Il est obligé de s'allonger dans le noir l'après-midi. Un matin, Nicolas le retrouve au salon, assis à une table à écrire.
Tu écris?
Oui, avant mon opération, je vais écrire un petit mot à chacun de mes amis.
Il a fait venir aussi son notaire. Ils se sont enfermés dans son bureau.
Nicolas se dit qu'il doit se rendre compte qu'il est perdu. Il met ses affaires en ordre. Est-ce qu'elle le sait? Nicolas passe des jours terribles où il voit son ami se dégrader de jour en jour. Il a fini d'écrire ses lettres qui sont des lettres d'adieu. Nicolas et Graziella mènent Frédéric à Lyon pour son opération. Le médecin lui a dit que c'était rien du tout, juste une artère qui s'était bouchée. Frédéric se fait opérer. Nicolas et Graziella ont pris 2 chambres dans un hôtel près de l'hôpital. Après l'opération, le médecin les a convoqués dans son bureau. C'est un homme grand, gros, jovial, cheveux grisonnants. Il a une bouche blanche. Il leur dit,
l'opération a démontré que la tumeur maligne a fait des ravages dans le cerveau. Il est perdu. Il se sentira mieux pendant quelques semaines, puis petit à petit, il ne pourra plus contrôler ses mouvements, aura des maux de tête. Les derniers temps, il faudra le faire hospitaliser pour qu'il souffre moins.
Graziella lui demande, il y en a pour combien de temps?
2 mois.
Je suis enceinte.
Ne lui dites pas qu'il est perdu.
Une semaine plus tard, ils ont ramené Frédéric chez lui. Il se sent mieux. très vite, c'est par soi qu'il se fatigue. Il a des difficultés à lire et écrire, ce qui lui met dans des crises terribles. Graziella reste avec lui et l'aide le mieux qu'elle peut. Elle a des médicaments à prendre, des tranquillisants et des comprimés contre la douleur. Un jour, il a très mal à la tête. Malgré ses difficultés, il écrit tout de même un peu, car il s'est mis en tête d'écrire un scénario pour lui et Graziella. Nicolas va voir le couple tous les après-midi. Il l'aide à faire les courses, aide Graziella pour le ménage. Nicolas est tellement effondré qu'il ne peut plus travailler. Frédéric, il l'a aimé et le voit mourir à petit feu. Cela lui est insupportable. Il trouve Graziella très forte, mais subit le coup du sort avec dignité. Les jours passent. Frédéric ne peut ni écrire ni lire. Il reste des journées entières à ne rien faire. Puis, il a des difficultés à faire des mouvements. Il prend la gauche pour la droite. Et un jour, il est pris d'un mal de tête terrible. Avec des vomissements. Le mal de tête dur, ne s'arrête pas. Les médicaments ne calment rien, ne peut plus manger, vomit. Le médecin vient le voir, hospitalisation. C'est la fin. Il est allongé, on le nourrit par perfusion, on le calme comme peu, avec de la morphine. Il maigrit, devient gris. Nicolas et Graziella ne le quittent pas. Frédéric est dans son lit, ne parle pas, il souffre. Et puis un jour, il leur fait signe de se rapprocher. Il leur dit, faites venir un prêtre. Graziella, les larmes aux yeux. Faites vite, je vais mourir. Frédéric trouve un prêtre. Il lui explique la chose. Le prêtre, un grand homme, sec, vient, lui fait tout ce qu'on doit faire à un mourant. Puis, il leur dit, veut être enterré religieusement et les laisse. Frédéric leur fait signe de s'approcher, leur prend la main et reste comme ça. Il n'a pas la force de parler. Et pour dire quoi? Nicolas sent que la main qui est dans la sienne se raidit. Ne sert plus. Il est mort comme ça. Nicolas se sent perdu. Il n'a plus envie de rien. Il veut mourir. Et en même temps, il a peur de la mort. Dans chaque être vivant se cache une chose qui grandit de jour en jour pour vous détruire. Chacun porte en soi son assassin. La peur de la mort, le désir de mourir se mélange. Il veut mourir comme il l'entend et quand il le voudra. Et mourir comment? Surtout pas par ce mal terrible. Voilà à quoi il pense en voyant son ami mort. Pourtant, il l'aime beaucoup. Mais cela fait la première fois qu'il voit un mort. sa douleur viendra plus tard, après le choc, d'avoir vu la mort de près. Pour son grand-père, c'était pas la même chose. Il n'a pas vu mourir ni mort. Il se reprend. Il doit s'occuper de Graziella, la réconforter et les funérailles. Il s'occupe de tout. Chacun reste silencieux dans sa douleur, par respect pour l'autre. Les funérailles ont lieu. Le choc a été tellement éprouvant par tous les deux. Qu'une fois l'enterrement fini, Nicolas la raccompagne chez elle. Une fois chez elle, il la regarde au milieu du salon avec sa petite robe noire. Il a l'air si triste, si misérable, lui. Il se sent si mal à l'aise d'avoir perdu Frédéric que cette douleur lui est insupportable. Pour elle aussi, c'est la même chose. Alors en se voyant l'un en face de l'autre, offert dans la douleur insoutenable, ils se jettent l'un vers l'autre, se cognent, se frottent, se cherchent pour oublier. Ils veulent mutuellement se soulager dans les larmes. Que leurs mains touchent leur corps pour leur faire du bien, et ils crient. Fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir. Rageusement, il la déshabille, la plaque à terre, se plaque contre elle, la couvre de baisers, la caresse, puis se soulève et se déshabille pour la prendre. Pendant quelques minutes, leur plaisir a été si fort qu'ils ont oublié leur douleur. Demi-heure plus tard, rhabillé, calmé, calme. Nicolas lui dit « Au revoir ». Elle lui dit « Je vais partir quelque temps ». Il se dit qu'il ne la reverra plus et la quitte. Le temps passe. Le temps passe et oui. La vie reprend petit à petit. Nicolas recommence à chercher un sujet pour un film. Mais toutes les nuits, il pense à Frédéric. Le temps passe, passe. Un après-midi, il est chez lui à écrire. On a sonné à la porte. Il se lève pour aller ouvrir. «
C'est Graziella. Bonjour Graziella. Entrez, je vous en prie. Elle entre. Bonjour Nicolas. Il l'amène au salon. Il est très ému de la revoir. Entrez.
C'est gentil. C'est avec père.
Pour aller chercher.
La maison.
C'est beau.
T'es sous temple. Tout. J'ai me coucher.
Laissez tomber, cela ne mènera à rien, elle lui dit. Je ne peux pas, j'ai essayé, mais ça m'est impossible parce que...
Ah, il est...
Eh hey. Bonjour, Nico. De Rose. Mais de femme. La mort présent.
Ce genre mieux, car ce méfant, j'ai de... Fait crâner à cette si...
Une semaine plus tard, Nicolas est au lit, il est 23h. On a sonné à la porte.
Il se lève pour aller ouvrir. Met sa robe de chambre, ses pantoufles.
Je veux passer la soirée. Je lui ai ton ami très grand. Je ne suis pas. Qui n'est pas. L'affaire est sans. Nicolas. Ça va sonner.
Eh bien, peut-être qu'un jour, je vous proposerai un rôle. Oh, merci! Je serai très heureux, surtout avec Graziella, ma petite Graziella.
Oui, bien sûr. Nicolas se demande quel rôle il pourrait donner à cette espèce de folle.
Graziella semble aux anges, après ces deux jeunes qui s'entendent si bien. Nicolas se dit qu'elle doit être bien désespérée pour s'accrocher à ce bois mort.
Il a une façon de se comporter que l'on voit tout de suite qu'il aime Graziella comme une copine. Malgré tout, ils s'occupent de bons amis.
Après-midi, Nicolas rencontre Graziella dans la rue. Il l'invite dans un salon de thé. Elle lui demande « Comment le trouves-tu »
Il est gentil, elle lui dit. « Ne fais pas trop efféminé ?»«
Non, pas du tout. Ses gestes sont très élégants. »
Tu as remarqué, en plus de ça, il est très beau.
Oui,
et son père lui dit. C'est dommage qu'il soit comme ça. Mais je lui ai dit que s'il amène un garçon chez nous, je le quitte.
Tu as bien fait.
Elle lui dit encore, surtout que nous faisons chambre commune, malgré que nous dormons comme frères et sœurs.
Une semaine plus tard, Nicolas est au lit, il est 23h. On a sonné à la porte.
Il se lève pour aller ouvrir. Met sa robe de chambre, ses pantoufles. Il ouvre. C'est Graziella.
Je peux entrer?
Oui, bien sûr. Elle fait entrer. Viens, ils vont au salon. Ils vont au salon.
Il lui demande, que se passe-t-il?
Je veux passer la soirée chez une de mes tantes.
Malheureusement, elle était indisposée et vous laisse reposer. Alors je suis rentré plus tôt que prévu. Et en entrant, j'ai entendu des bruits bizarres. La porte de la chambre était ouverte. J'ai vu Pierre se faire prendre par un jeune athlète. J'étais furieuse. J'ai crié « Pierre !» Ils se sont arrêtés. Je lui ai dit que je l'avais prévenu, que chez moi, que je voulais pas chez moi ce genre de choses. Tout en restant au lit, près de son ami, il me dit que ce n'était rien, que c'était pas grave, que c'était moi qui l'aimais de tout son corps. Je lui ai dit que pour moi c'était très grave, et qu'il m'aimait peut-être beaucoup, mais qu'il ne faisait pas avec moi ce qu'il faisait avec l'autre. Et il me dit tout de go, comment veux-tu que l'on fasse la même chose? Tu n'as pas ce qu'il faut. J'étais furieuse. C'en était trop. Je lui ai dit qu'il ne me reverra plus et qu'il était un sale enculé. Et je suis partie en claquant la porte. Il n'a même pas cherché à me retenir. Ou quoi? Il était resté au lit avec son mec. Et voilà. Ma pauvre Graziella. Et soupira lui dit.
Je me suis trompée. Ce qui me choque le plus, ce n'est pas qu'il m'ait trompé, mais qu'il n'ait eu aucun remords, ni gêne, et qu'il n'ait même pas cherché à me retenir.
Il lui dit, tu dois oublier.
Et que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, je ne veux plus le revoir.
Je te demande si tu peux m'héberger.
Oui, bien sûr, je veux bien.
Elle couche dans sa chambre et lui au salon. Sur le canapé. Le lendemain, en prenant leur petit déjeuner, elle lui dit
« Est-ce que tu veux aller prendre mes affaires chez lui?
Moi, je ne veux pas y retourner. »
Il lui répond « Oui, mais qu'aurais-je à prendre ?»
Oh, rien d'extraordinaire. Des vêtements, un petit coffre à bijoux et ma trousse de toilette.
Il lui demande. Pour les bijoux?
Il s'en moque. Ce n'est pas grave. Et puis, ils n'ont pas de valeur.
Bien, j'irai.
Nicolas va sonner au petit appartement meublé qu'a loué à la semaine Pierre.
C'est Pierre qui lui ouvre en robe de chambre beige. Bonjour Pierre.
Bonjour Nicolas.
Je viens de la part de Graziella prendre ses affaires.
Entre, Nicolas.
Il entre.
Sophia lui dit
« Vous savez sans doute. »
« Oui. » Pierre soupire lui dit
« Quelle dispute stupide, n'est-ce pas? Les femmes ne comprendront jamais que nous ne sommes pas comme elles. Je l'aime bien, mais je trouve regrettable son départ. Vous le lui direz. Surtout pour une peccadille. Vous comprendrez, vous. »
Oui, bien sûr. Où sont ses affaires?
Oh, oui, bien sûr. Vous devez être pressé. Vite, je vais vous mener à la chambre. Entrez. Voilà, c'est dans l'armoire. Prenez tout ce que vous voulez. Elle est chez vous?
Oui,
elle a de la chance.
Nicolas va ouvrir l'armoire. Prends une valise. Qui était sur l'armoire. La met à terre. L'ouvre pour y mettre les vêtements. Pierre, pendant qu'il est baissé, lui caresse ses cheveux et lui disant
que je vous aide.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 14e partie. Production mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP.